Je suis très attaché au lycée d'Alain. Et depuis plus de 70 ans maintenant. Bon, alors, je vais vous dire, évidemment, vous savez, je suis un ancien résistant. Un ancien résistant, je vais vous parler de 1940 et vous donner les trois raisons pour lesquelles j'ai fait de la résistance. En 1940, l'écroulement de la France, vous le savez, l'occupation étrangère, allemande, qui occupe, on peut dire, les deux tiers du territoire. Et puis, à partir d'un certain moment, il y a un petit recul de l'occupation. Et c'est comme ça que Lyon, que Bourg ont été libérés après avoir été occupés. Ils ont été provisoirement libérés, bien entendu. Bon, moi j'étais un lycéen, comme vous, j'étais en première, je préparais mon premier bac. À ce moment-là, il y avait deux bacs, et qui était où il y avait pas mal de choses à faire. Donc, je préparais mon premier bac en 39-40, et arrive l'exode. Les enfants, les garçons, bien, on a fui un peu dans le milieu de la France. Quand on est revenu, on était très abattus, bien entendu, devant la défaite de la France. Et pourquoi? Et c'est la première raison de ma résistance, c'est que depuis toujours, et je n'ai absolument, et c'est normal, j'étais très patriote. J'étais très attaché à la terre de France. La terre de France, depuis, moi je suis d'une famille qui était autrefois terrienne, qui était des cultivateurs de Franche-Comté, on a été tous, depuis des siècles, attachés à la terre. Hein. Donc, et ça, de père en fils, patriote, ça vient de pater, c'est-à-dire le père. Donc, c'était la première raison. Voir la terre de France occupée par l'étranger, par celui qui nous a fait la guerre en 14-18, c'était difficile. Mon père est mort des suites de la guerre, après 4 ans de tranchées, et je l'ai très peu connu d'ailleurs, lorsqu'il est mort, des suites de la guerre. Donc tout ça, ça veut dire que c'était pour moi une déchirure. Une déchirure formidable, comme beaucoup d'entre nous. Nous étions tous dans notre classe, et on était vraiment déchirés. Et ça, il y a eu une deuxième raison pour laquelle j'ai fait de la résistance. C'est que en septembre 40, donc 3 mois après l'armistice, dans les rues de Bourg, alors je ne vous raconte pas pourquoi, j'ai rencontré un couple d'une soixantaine d'années et qui était en conversation avec ma mère. Je m'approche, moi je faisais autre chose, et elle me présente, je ne sais pas du tout comment elle l'a fait leur connaissance, c'était le général de Lestrin avec et madame. Général de Lestrin, venait d'être touché par la retraite, tout de suite après l'armistice, il a été mis à la retraite, comme beaucoup, mais il y a une différence, c'est que beaucoup de généraux se sont rattachés au maréchal Pétain Vichy. Or, lui, chose extraordinaire. Au contraire, il nous dit, il ne faut pas désespérer, on n'a pas perdu la guerre. La guerre, eh bien, il faut penser à la reconquête de la liberté. La liberté, ça compte. Donc, il ne faut pas désespérer. Et il me parle, il me regarde droit dans les yeux, au fond des yeux, et je dois dire que cet instant-là a été pour moi quelque chose d'extraordinaire. Je me suis senti engagé, vraiment engagé. Je devais faire quelque chose. Et tout de suite, je me suis mis à son service. Je lui ai dit, mon Gérald, si vous avez besoin de moi, je suis disposé, je pense tout à fait comme vous. Bien sûr, je vous suis. Alors, il dit, quand j'aurai besoin de vous, certainement comme j'aurai besoin de beaucoup. Ça, c'est la deuxième chose, je me suis senti engagé. La troisième raison, elle vient d'ici, du lycée Lalande. Le mois d'octobre, j'entre en terminale, ce qu'on appelait à ce moment-là Mathélem, mathématiques élémentaires, et si vous voulez, c'est terminale S, hein, pour vous, je crois. Et là, très vite, on a été très surpris, parce que brusquement, dès que on rentrait le 1er octobre, comme d'habitude, ça c'était classique. On a la visite du prof viseur qui très vite fait un discours politique, très vite, et nous dit, voilà, il faut suivre le maréchal Pétain et son gouvernement. Et il faut absolument le suivre et être vraiment très loyal avec lui. Ceux qui regardent du côté de l'Angleterre et du général de Gaulle ont tort. La France sera sauvée sans l'Angleterre. Mais il faut le suivre et lui obéir. Et puis, le prof de maths, qui était mon prof de principal, bien sûr, dès qu'il est parti, fait le même laïus, peut-être encore plus aigu, de loyauté et surtout de menace, en menaçant ceux qui ne suivent pas le maréchal. La menace. Bon, vous voyez, on avait l'impression que là, alors que jusque les années précédentes, on ne voulait pas de discours politique. Là, c'était net. Hein. C'était net. Il y avait la frontière, pas de franchir. Sans ça, hein, être gaulliste. Et moi, j'étais gaulliste. Donc, quelques jours plus tard, les 3 et 4 octobre, le gouvernement de Vichy publie des décrets-lois contre les Juifs. Et là, je dois vous dire que ce n'est pas du fait des Allemands, pas du tout. Le gouvernement nazi allemand n'avait pas obligé le gouvernement d'ici de prendre ces décrets-lois, pas du tout. Or, ces décrets-lois étaient terribles. C'est-à-dire que les Juifs devaient être chassés de l'armée, chassés de la fonction publique, de l'éducation nationale, de la justice, etc. C'était ahurissant. Et alors, c'était donc extrêmement important, parce que jamais, d'ici là, nous avions, nous, dans nos classes, quelques amis, il n'y en avait pas beaucoup, mais qui étaient israélites, c'était des amis, des camarades comme les autres. Jusque-là, jusqu'en 40. Et là maintenant, on les stigmatise, on leur dit, voilà, ce sont des Juifs, des seuls juifs qui ont... C'est à cause d'eux qu'il y a eu tout ça, etc. Ce qui n'était pas vrai du tout. On leur met tous les péchés du monde sur le dos. Et alors, bien sûr, il y avait parmi mes camarades beaucoup qui ne disent rien. Bon. Et puis il y en a d'autres qui étaient des ultras. Des ultras et dont le fils du professeur de maths, qui était dans notre classe et qui rapportait visiblement à son père tout ce qui se passait dans notre classe. Ce qui était quand même ahurissant, mais c'est comme ça. Et lui, pour lui, c'était l'essentiel. Comme pour le proviseur, celui qui n'était pas viciste, pro-maréchal, était un mauvais élève. Et le proviseur, un jour, me l'a dit. Vous êtes un mauvais élève, hein, parce que je n'étais pas pour le gouvernement. Or, parmi ses camarades, il y avait donc ces ultras. Et il y en a trois dont les noms, je les garderai en mémoire toute ma vie. Ces trois-là décident, se repèrent parmi nous, un camarade qui venait de la zone occupée, qui ne voulait pas y revenir parce qu'il était juif, et il s'appelait Serf. Or, notre camarade Serf était le fils d'un officier qui s'était battu très bien pendant la campagne de France de 40. Donc, il n'y avait rien à lui reprocher de ce côté-là. Mais voilà, ces trois énergumènes de mes camarades décide, parce qu'il était juif, de casser la figure de Serf pour rien, simplement parce qu'il était né juif. Et un jour, à la sortie du lycée, rue du lycée, là devant, ils attendaient, ils étaient là à l'affût, Serf sort, ils se précipitent tous les trois sur lui pour lui donner de violents coups sur la figure. Il voulait le marquer, notamment lui faire ce qu'on appelle des cocards. Et bon, j'étais là, j'ai vu ça, je me suis précipité parce que je trouve ça ahurissant. Alors, va-t'en, Guilain, c'est pas ton affaire. Alors, il y en a un qui me ceinture et qui me repousse de côté. Et le pauvre garçon, le pauvre Serf, a la figure toute tuméfiée avec effectivement un beau coca. Il s'enferme. J'étais hors de moi. Je crois que j'ai rarement été en colère comme cela. Peut-être quelquefois contre mon frère, c'était possible ça, c'est possible. Mais ça n'avait rien à voir avec cette colère-là. Une colère qui était absolument, je trouvais ça inimaginable que lâchement, à trois contre un, on veuille esquinter la figure de quelqu'un seulement parce qu'il était juif. Alors ça, c'était quelque chose d'extrêmement nouveau. Et le gouvernement de Vichy en est pour quelque chose. Les décrets-lois qui étaient passés. Ça s'est passé à peu près, cette histoire-là, dont je vous parle, au lycée Lalande, vers le 20 octobre. Donc, les décrets du début du mois ont, bien sûr, conforté beaucoup ces garçons qui se sont dit « Oh, mais... vive le gouvernement, hein, on va pouvoir faire des pogroms et essayer de mettre de l'ordre un petit peu. » Eh bien, ça a été... Alors, dès que je me suis précipité vers eux et je les ai insultés. Je les ai insultés. Et moi, ce n'était pas du tout mon habitude, mais je les ai bassement insultés. Bon, ils ont fait comme ils étaient très fiers d'eux. Alors voilà les trois raisons. Les trois raisons. Ça, si vous voulez, que on fasse quelque chose, que la France, pays de liberté, pays de tolérance, arrive à être une image et être transformée comme ça, je pense que c'est une des raisons majeures pour lesquelles il fallait dire non et refuser. Voilà. Voilà ces trois raisons. Bien sûr, et là c'était important, nous avions le général de Gaulle qui était à Londres, la radio, la BBC, la radio anglaise, qui nous apportait, malgré le brouillage des émissions, qui nous apportait des renseignements. Et on a commencé à faire de la résistance individuelle par la propagande. Par la propagande, c'était normal. Et je l'ai fait au lycée. Jusqu'au jour où j'ai été dénoncé par le professeur de maths, et par le fils du professeur de maths et par le professeur de maths, bien sûr, comme gaulliste, et le professeur de... Et le professeur en a parlé au proviseur. Le proviseur a... J'étais pas le seul dans mon cas, dans d'autres classes. Ça s'était un peu passé comme ça. Il a fait une liste des quelques-uns qui étaient gaullistes, dont moi. Et chose extraordinaire, a remis cette liste au préfet. Au préfet de l'Ain. Et alors, le préfet de l'Ain, qui n'était pas un homme méchant, pas du tout, il faisait son travail, mais il a, pour calmer le jeu, il a délégué sa femme auprès de ma mère, en lui disant, dites voir votre fils, faut qu'il se tienne tranquille. Voilà, donc, un peu, si vous voulez, les débuts de ma résistance. Propagande, et puis alors la craie, où on mettait des V avec des croix de Lorraine sur les murs. Voilà. Voilà, alors, je me tais, vous allez me poser des questions, mais je voulais vous parler des raisons pour lesquelles j'ai fait la résistance. Voilà. Alors, je pense que si vous voulez bien me poser des questions, vous êtes d'accord, je crois.
Pour commencer, on va proposer d'en préparer, Mélanie.
Après que le préfet de l'Ain ait averti votre mère, vous avez réagi comment?
Eh bien, ça m'a appris la prudence. C'est la prudence. C'est pas la peine de se griller. Il faut être prudent, surtout dans l'atmosphère de la classe, de la classe de Mathélem où j'étais. Donc là, parce que le résistant doit être prudent, il doit être secret, et devenir secret. Alors bon, après, j'ai eu des aventures, mais c'est la sauce qui m'a... ce que j'en ai tiré, si vous voulez, de cette histoire-là.
Dans votre classe, il y avait beaucoup de résistants ou vous étiez...
Vous voyez, on était... c'était des sympathisants. Il y avait des sympathisants sur lesquels on pouvait compter. Hein. En philo, il y en avait quelques-uns. En maths, j'en avais un peu moins. Mais surtout, si vous voulez, et ne prenez pas ça pour un reproche, mais il y avait beaucoup, comme tous les Français, des attentistes. Hein. Bon, on va voir. On va voir ce que ça va donner. Hein. Même si le cœur, la pensée ou l'espoir allait peut-être du côté de Gaulle, chez plusieurs, hein, ils n'étaient pas engagés dans la résistance. Voilà.
Est-ce que plus tard vous êtes organisé à l'intérieur de la classe pour résister ?
Oui, alors, je vais vous dire, pas en Matelem. En Matelem, j'ai fait ce que le général me disait de faire, hein, c'est-à-dire contacter des gens, hein, contacter des officiers qu'il connaissait, etc. Bon, je faisais un peu l'agent de liaison, oui. Mais ça s'est borné à ça, en fait, en dehors de la propagande dont je parlais. Alors, ce qui s'est passé, c'est que en 42, le général de l'Estrin, je ne sais pas si vous le savez, qui était très connu du général de Gaulle, a été nommé par lui chef de l'armée secrète. C'est-à-dire que il lui a donné la mission, qui est une grosse mission, d'organiser et de commander l'armée secrète. Et d'abord pour la zone non occupée, et ensuite, à partir de novembre 1942, pour l'ensemble du territoire. Alors, c'était une très grosse chose. Je ne sais pas si vous le saviez, vous connaissez la rue du général de l'Estrin, et je ne sais pas si vous saviez quelles étaient ses fonctions, effectivement. Alors, moi, à ce moment-là, depuis 1941, j'ai commencé mes études universitaires à Lyon. Hein. Je voulais être médecin. J'y suis arrivé bien après la guerre. Et lorsque je suis arrivé à la fac de sciences d'abord, de médecine ensuite, à Lyon, là, j'ai fait de la résistance. Je me suis engagé avec des camarades. On a fait plusieurs choses. Voilà. Mais ensuite, si vous voulez, j'ai tout laissé abandonner du moment où le général de l'Estrin m'a dit à ce moment-là, comme il m'avait dit, j'aurais besoin de vous, effectivement, il m'a dit à ce moment-là, il m'a pris à son service, si vous voulez, avec des missions. Et j'ai eu des missions, alors, à Lyon d'abord, c'est moi qui me suis occupé du courrier, ce qui était important, le courrier et, bien sûr, et des missions à l'extérieur, c'est-à-dire que des petits voyages, quelquefois au Vercors, quelquefois dans les Alpes, etc., contacter des gens pour l'armée secrète. Alors ça a été le début de mon action avec le général. Mais c'était évidemment la chose la plus importante, passionnante d'ailleurs, passionnante. Parce que c'est vrai ce qu'il faut dire. Bon, j'étais jeune, c'est vrai, mais on n'a pas tellement peur. On n'a pas tellement peur, on est vraiment très passionné par ce qu'on fait. On a peur dans certains cas. On a peur, par exemple, quand on est dans le train et qu'il y a des Allemands, des Feld gendarmes qui vérifient vos papiers. On a toujours peur. Ça m'est arrivé ultérieurement. Quand j'ai été clandestin à part entière, avec de faux papiers. Et ça, alors là, on a peur, bien sûr. Et puis, dans plusieurs autres occasions. C'est un exemple.
C'était quoi votre opération la plus marquante sur le terrain ?
Mon opération ? J'ai pas fait sauter de train, des trucs comme ça. Je vous le dis tout de suite. Mais, bien que, non, c'est-à-dire, j'ai pris le maquis assez tôt, en juillet 43, parce que j'étais recherché par Barbie, par la Gestapo, et là, il est certain que on a appris à on a appris pas mal de choses, à notamment à faire sauter des voies. Hein, bon, mais je ne l'ai pas fait moi-même. D'autant plus que j'ai été étudiant en médecine à ce moment-là et que je m'occupais beaucoup du service de santé. J'ai eu des coups durs, mais j'ai pas eu, si vous voulez, de choses exaltantes comme vous dites, par exemple, des actions que des maquis ont pu faire. J'ai fait beaucoup de choses, mais qui n'ont pas été spectaculaires. Voilà. Hein, notamment, vous parlez des trains, mais il y a de faire sauter des pylônes, etc. J'ai fait, si, il y a quelque chose, c'est les parachutages d'armes. Ça, c'était assez exaltant. Oui. Quand il y avait des avions, quand j'étais au maquis, et qui ont parachuté. D'ailleurs, j'étais revenu dans l'Ain, là, et bien, de voir des parachutages, c'est assez extraordinaire. Comme aussi l'atterrissage d'un Lysander, d'un petit avion britannique qui venait tout à fait et qui a amené des officiers des forces françaises libres en France et qui repartait tout de suite. Ça, c'est formidable. C'est formidable. C'était des pilotes sensationnels. Pour faire ça en zone occupée, à la barbe des Allemands. Voilà. Bon, des questions.
Quelle était la position de votre famille? Est-ce qu'ils savaient que vous étiez résistant?
Oui. Moi j'étais donc orphelin de père depuis très longtemps. Mais ma mère était tout à fait d'accord. Était tout à fait en tremblant pour moi. Ça, bien sûr. Bien sûr. Mais je lui dois beaucoup lorsque la Gestapo est venue me chercher à Bourg. Bien sûr. Puisque je vous en parle, par exemple, je vais vous le dire. Non, c'est vrai, je lui dois beaucoup. Elle habitait Courte-Verdun. Un jour, oui, là, je savais que la Gestapo, le général venait d'être arrêté par les Allemands, parce qu'il a été arrêté par les Allemands le 9 juin 1943. Bon, c'est moi qui suis allé prévenir Jean Moulin, que je connaissais bien, que je le connaissais pas sous son nom. Hein, je n'ai appris son nom qu'à la libération. Mais on l'appelait Max. C'est moi qui ai prévenu Max de l'arrestation de mon patron. Et là-dessus, j'ai essayé de... André Lassagne m'a envoyé à Paris pour prendre des renseignements, de savoir... parce qu'il a été arrêté à Paris. Bon, là... J'ai eu des renseignements, j'ai pu avoir des renseignements sur son lieu de détention. Il était entendu qu'André Lassagne devait venir me rejoindre à Paris pour voir ce que l'on pouvait faire. Ce que l'on pouvait faire, est-ce qu'on pouvait penser à un coup de main, etc. On en était là. Et puis... j'avais un rendez-vous près de la gare de Lyon à Paris, et à plusieurs jours, et il n'est jamais venu. Le premier jour, j'ai dit, bon, ben, il viendra le lendemain, etc. Il n'est pas venu. Et là, il fallait que je rentre à Lyon. Je prends un train, et Je vais vous dire, j'avais encore un examen de médecine à passer, là. Et il fallait absolument que je rentre à Lyon pour ça. J'ai travaillé d'ailleurs toute la nuit dans le train pour ça, et finalement ça s'est très bien passé. Et alors, arrivé à Lyon, je ne trouve plus personne, mais plus personne de l'état-major de l'armée secrète. On ne le voit plus. André Lassagne, notamment, dont je vous parlais, répondez pas, je ne comprenais pas. Je vais chez lui, là, à cour Lafayette, à Lyon, et je vois, je savais où il était, puisque j'étais venu le voir un jour chez lui, et de l'autre côté du cours Lafayette, je vois une traction noire avec un gars. Je me dis, ça, c'est la Gestapo. J'ai pas insisté, je ne suis pas entré. Et j'ai vite pris le tramway en courant, et j'ai bien fait, parce qu'il avait été arrêté à Caluire. Vous avez peut-être entendu parler de l'histoire de Caluire. Quand Gérald de Lestrin a été arrêté à Paris, donc le chef de l'armée secrète arrêté, Jean Moulin, donc Max, si vous voulez, Max, qui était le représentant du général de Gaulle pour toute la France, hein, c'était ses fonctions, c'était le délégué pour la France. Donc Jean Moulin décide de réunir les gens qui étaient à l'état-major pour essayer de nommer un successeur à de l'Estrin. Hein. Alors, finalement, ça s'est passé à Caluire. Il réunit tout le monde et un traître, comme toujours, on a toujours eu des traîtres. Un traître et la Gestapo avec le fameux Klaus Barbie dont vous avez entendu parler, n'est-ce pas ? Klaus Barbie qui était le chef de la Gestapo, mais pas de toute la police allemande de Lyon, c'était seulement la Gestapo. Eh bien, il amène tout et il ramasse tout le monde. Sauf, alors, il y a le traître qui était là, et ce traître, on l'amène près de pour l'emmener près d'une traction avant, là. Il n'y avait plus de menottes pour lui, soi-disant, ce qu'on appelle un cabriolet, c'est-à-dire une cordelette. Il se libère de la cordelette, il donne un coup de coude au SS qui était à côté, au SS, et il s'enfuit. Alors il y en a un qui jette un petit coup de mitraillette comme ça, un peu en l'air, et on le laisse s'enfuir. C'était lui qui avait trahi. Hein, c'était très net. Et alors, là, tout le monde a été arrêté. Dont André Lassagne, dont je vous parlais tout à l'heure, celui que j'attendais à Paris et qui n'est jamais venu. Pourquoi n'est-il pas venu ? C'est parce qu'il avait été arrêté à Calais. Voilà. Ça a été un très gros coup. Ça, c'était, si vous voulez, la résistance française décapitée, hein, complètement décapitée. Très dur, très dur. Et alors, comme certains m'ont dit, tu vas te faire arrêter. Oui, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, vous allez vous faire arrêter, vous ne devez pas rester à Lyon, etc. Et je suis venu 48 heures chez ma mère, j'avais fini mes examens de médecine. Je suis venu 48 heures chez ma mère à Bourg, et là, j'ai pour partir, je ne savais pas où, je me suis dit, tiens, je suis appelé au chantier de jeunesse, je vais y aller. Alors j'y vais, et j'arrive au chantier de jeunesse. Quelques jours plus tard, la Gestapo est venue me chercher à Lyon, trois fois, à Bourg trois fois. Et c'est là où, alors, l'histoire de ma mère, donc, elle sort pour faire des courses, et dans les escaliers, elle rencontre, elle voit deux types avec la mine un peu particulière, chapeau moulon, l'impair bien serré la taille, ça, c'était typique, hein, de l'image de la Gestapo. Elle comprend tout de suite, elle descend, elle ne s'arrête pas, elle descend les escaliers, et là, elle attend. Et voit qu'il continue à monter au deuxième étage où nous habitions, et là, il y avait quelqu'un qui était resté à la maison, qui ouvre la porte, et François Guillain, ben, il n'est pas là. Où est-ce qu'il est? Il est au sentier de jeunesse. Où donc? Et cette dame, qui savait où j'étais, donne le lieu, dit, ben voilà, il est au sentier de jeunesse, au-dessus d'Aix-les-Bains, enfin, etc. Ma mère entend ça, elle dit, c'est de la folie. Et grâce à elle, je dois dire, grâce à elle, elle m'a fait prévenir le plus vite possible par quelqu'un, Bob Fornier, dont vous avez peut-être entendu parler, qui était un grand résistant de Bourg, et qui a délégué quelqu'un. J'étais le chef de l'armée secrète pour le département de l'Ain. Et il est parti en moto, et il m'a fait prévenir, et j'ai pris le maquis. Là. Voilà. Voilà, je vous raconte ça pour vous dire que ma mère, là, je lui dois énormément. Hein. Il est probable que j'aurais été arrêté sur les lieux, dans les montagnes des Beauges où j'étais. Voilà. Voilà, je vous raconte ça. C'est évidemment, c'était un moment très difficile. Bon, et puis alors, la vie au maquis, c'était pas très, très organisé à cette époque, juillet 43, hein, fallait voir ce que pouvaient être les maquis. C'était incroyable, manque de tout. C'était en Maurienne, j'ai pris les maquis en Maurienne. Voilà. Vous avez des questions à poser? Ah ben, je dois dire que je connaissais le risque, hein. Je connaissais le risque de l'arrestation. On savait que le camarade qui était arrêté disparaissait. Hein. Il disparaissait. Alors donc, depuis février 43, c'était... je ne sais pas si vous connaissez un peu Lyon, tout se passait à l'ancienne école du service de santé militaire, avenue Berthelot, qui avait été réquisitionnée pour abriter tous les services de police allemande de la région. Ceux qui étaient arrêtés à Bourg étaient envoyés à avenue Berthelot. Et donc, Klaus Barbie avait une section qui lui était réservée. C'est là où, et nous, on l'ignorait, parce que les camarades, on ne les revoyait plus. Hein. Donc, on ne savait même pas. Alors, on savait qu'il y avait une déportation. On ne se doutait pas de ce que pouvait être la déportation. Hein. On ne se doutait pas. Des choses vraiment inimaginables d'ailleurs. Enfin, j'ai des camarades qui ne sont pas revenus, bien sûr, d'autres qui sont revenus. Je vais vous parler de la famille Fornier de Bourg, une famille résistante, très résistante, qui ont fait énormément de choses. Eh bien, ils ont tous les hommes ont été arrêtés. Tous les hommes, le père et les trois fils. Et le fiancé d'une fille. Eh bien, il y en a. Ils n'ont rien retrouvé, ils n'ont pas trouvé de cause, enfin, de prétexte, en fait, pour les arrêter, sauf une dénonciation. Et ça suffit. Ils les ont tous barbotés. Vous connaissez Revena, non ? Auprès de Césaria. Ils habitaient Revena, là. Et l'arrestation s'est faite en novembre 43 à Revena. Et il y a eu deux garçons qui sont revenus de déportation de Bourg-en-Val. Quant au général de Lestrin, vous savez, il a été arrêté, en prison à Fresnes, à la prison de Fresnes, près de Paris, et puis envoyé ensuite, après de nombreux mois de cellule, il a été envoyé au Struthof, dont vous connaissez l'existence, hein, je crois que certains y sont allés, vous ne l'avez pas vu, en Alsace. C'est le camp qui se trouvait en Alsace. Le Struthof, et puis quand les armées alliées en 1944 ont avancé et menacé beaucoup l'Alsace, le camp a été évacué, ils ont été envoyés à Dachau, à Dachau, en Bavière. Et là, le général y est resté, et ceux qui l'ont connu ont gardé un souvenir extraordinaire, je vous dirai pourquoi, j'ai travaillé beaucoup la question. Et 10 jours avant la libération du camp, les Américains arrivaient en Bavière. 10 jours avant, il a été assassiné lâchement. Bon, on lui a raconté des salades, des blagues, et il a été abattu. Et son corps a été incinéré, bien sûr, tout de suite dans ces fameux fours crématoires. Voilà. Son nom est au Panthéon de Paris. Voilà. Donc, si vous voulez, je vous parle de lui parce que vraiment, je l'ai connu et j'ai eu un respect énorme pour lui. Je pense que c'est quelqu'un qu'il ne faut pas oublier, surtout à Bourg. Alors, après ma retraite de médecin, j'ai pensé qu'il était bon d'écrire quelque chose sur lui. Mais pour être sûr que je n'aurais pas de contradicteur léger, tout au moins léger, je me suis mis à faire des études universitaires d'histoire. Et je suis arrivé, j'ai consacré 6 années à cela, je suis arrivé au doctorat et j'ai fait ma thèse sur le général de Lestrin. Et une thèse d'histoire, j'aime mieux vous dire que c'est 3 bouquins comme ça. C'est énorme. C'est quelque chose d'énorme. Mais j'en suis assez fier parce que il en valait la peine. Il en valait la peine. Et après, j'ai écrit un bouquin. Le bouquin est d'ailleurs est épuisé depuis longtemps. J'ai fait mon bouquin en 95, réédité en 96. Voilà. Voilà. Je vous raconte ça, c'est pas pour me flanquer des coups dans son soir, ne croyez pas.
D'autres questions ? Sur le maquis, sur la vie à vous ?
Ah, voilà. Comme vous voudrez. je peux vous parler du maquis, si vous voulez.
Vous n'aviez pas peur qu'on fasse pression sur votre famille, sur votre mère, pour vous retrouver?
Si, bien sûr. D'autant plus que ma mère a été... on est venu me chercher quand je suis parti au maquis. Mais à ce moment-là, ma mère est restée à Bourg. Et la Gestapo est revenue. Mais elle se méfiait énormément. Elle avait la façon de voir ce qui se passait sur le palier sans faire de bruit. Et elle l'a vu à deux autres reprises, les Allemands revenir. Et elle a jamais vu. Et ça devenait aigu pour elle. Et elle est partie dans un couvent. Elle est partie se réfugier dans un couvent Franche-Comté. C'est une tante qui était religieuse et qui l'a acceptée. Voilà, pendant quelques temps. Elle était beaucoup plus tranquille. Mais il est certain que moi j'ai eu très peur pour elle.
L'épuration
au palier. Ah non, alors là, non. De penser à ça, les cheveux me hérissent. Mais c'est épouvantable. Il y avait des choses inimaginables. Hein. Autant on est arrivé à condamner les Allemands, les collaborateurs, autant faire sa justice soi-même, c'est pas possible. J'ai vu, quand j'étais au maquis, ensuite j'ai participé à l'encerclement de Lyon par les maquis, je suis arrivé à Bourgoin, et j'ai vu, là, on a libéré Bourgoin, il n'y a pas que nous, il y avait plusieurs maquis qui l'ont libéré, avant l'arrivée des Américains. Et j'ai vu là des scènes, vous savez, les filles tendues avec la croix gammée qu'on leur laisse craindre, c'est épouvantable. Mais des gens qui sont de faux résistants souvent, et qui viennent, qui sont des résistants à la dernière heure, et qui viennent, c'est pas croyable ça, c'est une chose qui est absolument inimaginable.
Et comment réagissait la foule dans ces cas-là?
Pardon?
Les gens autour, ils réagissaient comment?
Oui, ah ben c'est l'ambiance, la folie contre le soi-disant collaborateur. Je ne connaissais pas, bien sûr. Mais on a mis le haut là, mais c'est très difficile. Parce que la foule est déchaînée. La foule est déchaînée. Et donc, l'épuration, moi je m'en suis méfié. Une déception. C'est une déception pour moi. Mauvais moment, d'ailleurs. Mais la libération, le jour de la libération, c'était extraordinaire. Là où il fallait lutter. Bon, la libération de Lyon, pour moi, j'en ai gardé un souvenir, un très beau souvenir, mais pas de l'épuration.
Est-ce que, après, pour libérer d'autres villes, vous avez été rejoint par les Américains?
Les Américains, donc, on les a retrouvés à Bourgoin. Bon, heureusement, parce que, si vous voulez, ma formation avait voulu libérer la Verpillière. La Verpillière, c'est entre Bourgoin et Lyon. Et alors, on était arrivé à cerner un petit peu. Les Allemands ont dégagé la Verpillière, se sont pliés. Alors, on arrive à la Verpillière. D'ailleurs, en y allant, on a vu quand même un Messerschmitt, un avion de chasse, qui nous a mitraillé en rase-motte. Bon, donc c'était, là, on était en bagarre, en vraie bagarre. Alors, Là, moi j'étais avec mon brassard de médecin auxiliaire, si vous voulez. Bon. Et je n'avais pas d'armes. Je n'avais pas d'armes. Mais je voyais tout. Et à ce moment-là, les Allemands ont fait une contre-attaque pour reprendre la Verpillière avec des obusiers. Il y avait des obusiers qui sont tombés sur les toits, qui sont tombés. Alors beaucoup se sont repliés très vite, on n'a pas insisté. Et moi, je me suis retrouvé tout seul, hein, et j'ai vu des Allemands qui m'ont tiré dessus. Et c'est pas très drôle. Parce que quand on n'a rien pour se défendre, c'est pas très drôle. Mais je me suis replié aussi. Voilà. Bon. Alors ça, c'était la Verpillière. Et après, les Américains, on s'est dit, mais ils vont peut-être continuer à reprendre Bourgoin. Et nous, on n'est pas assez forts pour lutter contre eux. Et à ce moment-là, les Américains sont arrivés. Alors, une batterie au-dessus de la ville, etc. Ils ont canonné un peu les positions allemandes et les Allemands ont décroché. Et nous, à ce moment-là, nous avons avancé. Et nous avons avancé jusqu'à Lyon. Et alors là, j'arrive sur les quais du Rhône, rive gauche du Rhône, et un de mes souvenirs, c'est de voir que de l'autre côté du Rhône, il y avait les Allemands et les miliciens français qui étaient armés et qui nous tiraient dessus. Et qui tirait sur les Américains qui étaient là, et nous, sur nous. Et à ce moment-là, j'étais à côté d'eux, j'ai vu des Américains qui ont installé une mitrailleuse à balle traçante, une mitrailleuse lourde, et ils ont vu qu'il y avait des miliciens sur le toit de l'Hôtel Dieu. Vous connaissez l'Hôtel Dieu de Lyon, non? Oui, vous voyez. Ils étaient sur le toit, sur la rive droite du Rhône. Et là, ils les ont canardés. Et les balles traçantes étaient très nettes. Et là, je suis un témoin, j'étais là. Et j'ai vu cet espace. J'avais bien dit attention, attention, mais ça ne me servait à rien. Ils ne m'écoutaient pas, j'étais zéro. Et canarder les miliciens, qui ont été d'ailleurs descendus. Et à un moment, le dôme de l'Hôtel Dieu s'est embrasé. C'était épouvantable de voir cet immense dôme qui avait été fait par Soufflot. Vous avez entendu parler de Soufflot, hein, c'est cet architecte du 18e. Et l'Hôtel Dieu a été fait par Soufflot. Et on a vu ce dôme merveilleux qui flambait, c'était jusqu'au moment, et c'est allé vite, hein, jusqu'au moment où il s'est effondré. Et alors, à ce moment-là, un infirmier de l'Hôtel Dieu, puisqu'il y avait des malades qui étaient toujours à l'Hôtel Dieu, qui avec beaucoup de courage, est sorti en bas du dôme et a brandi un grand drapeau à croix rouge pour montrer que c'était un hôpital. Et là, les Américains ont arrêté. Mais c'était trop tard. Il a été reconstruit bien après ce dôme, 25 ou 30 ans après. Voilà, ça c'est une parenthèse. Voilà, vous avez peut-être des questions à vous poser, par exemple sur les maquis, non?
Vous étiez organisé comment dans les maquis? Il y avait
très mal.
Vous étiez nombreux dans ces maquis.
Voilà, écoutez, dans le maquis, on arrive comme ça en juillet 43. Il y avait une trentaine de gars qui étaient là, qui étaient ordinairement des STO, Service du Travail Obligatoire. Vous avez entendu parler du SDE. Vous savez qu'en février 1943, les Allemands.
C'est quelle heure ?
Il est midi, on a encore une heure, mais voilà. Il y a Mme Trichard qui va venir après, parce que moi je dois partir en jury à Lyon. Donc on va encore vous interrompre une fois.
Mais je vous en prie. Je vous en prie. Oui, alors je voulais vous dire, bon, une trentaine de personnes, c'est ma petite expérience, hein, et là, l'arrivée, 1600 mètres d'altitude à peu près, oui, peut-être un peu plus même, au-dessus de, comment ça s'appelle, les savanes Saint-Rémy, si vous connaissez, non? Je ne connaissais pas la Maurienne. Alors donc, c'était assez haut. Il y avait une grange d'alpage qui nous abritait, voilà, et qui, où on pouvait dormir, bon, avait du foin, c'était pas mal. Et comme pour se nourrir, quand on est arrivé, bon, Les maquisards, qu'est-ce que c'était ? C'était soit des gens, des gars du pays, des gars qui étaient à peu près de mon âge, bon, et qui m'appelaient toujours docteur, alors que je ne l'étais pas, mais j'étais seulement étudiant en médecine. Bien sûr, je m'occupais du service de santé quand même. Et d'autre part, il y avait ceux qui avaient fui de la zone nord. Et bon, il y avait plus de lignes de démarcation, mais ils habitaient nord. Moi, j'ai le souvenir d'un petit gars qui était tourneur chez Renault, à Billancourt. Et qui, pas bête, le gars pas bête, qui s'est dit, moi, je vais être ramassé, je ne veux pas partir en Allemagne pour aller travailler. Il est allé à la gare du Nord, à la gare de Lyon. Il a vu que là, il y avait des trains qui allaient, qui faisaient Paris-Modane. Modane, c'est au bout de la vallée de la Maurienne. Il a dit, formidable, c'est tout ce qu'il me faut. Il a pris un billet, il est parti, et quand il a été en Maurienne, il est sorti du train, il a demandé à des cultivateurs, il dit, il n'y a pas un maquis par là. On dit, oh si, il y a bien quelque chose par là, bon, etc. Ben, c'est ça, c'est comme ça qu'ils arrivaient. Hein. C'était pas plus compliqué. Il y avait à cette époque, la Maurienne était occupée, non pas par les Allemands, mais par les Italiens, hein, à cette époque. Hein, c'était juillet 43, hein, juillet 43 où je suis arrivé. Et ce petit gars était remarquable, il voulait vraiment se battre, il voulait faire quelque chose. Il pensait bien que c'était pas pour se planquer, il voulait pas partir en Allemagne, mais il voulait faire quelque chose. Voilà. Bon, et puis alors, comment est-ce qu'on vivait ? On a vécu à cette époque grâce aux cultivateurs, aux paysans du pays, il faut le reconnaître, aux Savoyards, ces Savoyards merveilleux qui, à cette époque, nous ont donné de la viande sèche, séchée, la viande de mouton séchée. Des légumes secs, et puis on se débrouillait bien, on faisait de la tambouille. Et je dis ça parce que ça m'est bien arrivé de faire, et même souvent, de faire la cuisine. Là-bas, c'était rigolo. Voilà. Et jusqu'au jour où l'autorité qui voyait ce maquis a trouvé qu'ils n'étaient pas du tout sûrs. C'est vrai que là, on avait pour faire l'exercice, l'instruction militaire, on n'avait qu'une vieille pétoire qui avait plus de 100 ans, certainement. C'était absolument... Et non, l'instruction militaire, elle était là. Alors, ils ont tenu à faire quelque chose de beaucoup plus correct. Les parasitages commençaient un tout petit peu, mais très très peu. Et alors, on nous a fait partir de chez Maki et on est allé dans un autre qui était au-dessus de Pont-à-Maffrey, mais vous ne connaissez pas la région. Pont-à-Maffrey, c'est pas loin de Saint-Jean-de-Maurienne. Voilà. Et puis on est arrivé là, et on a été reçu dans un tout petit bled, mais tout petit bled, où on ne pouvait pas... c'était 1800 mètres d'altitude, c'était une petite commune qui s'appelait Mont-Pascal. Et on ne pouvait pas y accéder par la route, il n'y avait pas de route. Il n'y avait que des chemins où seulement les mulets pouvaient venir. À cette époque, ça fait 67 ans. Hein. Maintenant, il y a des routes. Il y a des routes maintenant. Et alors, nous sommes arrivés là. On s'est organisé bien mieux, et l'instituteur qui était un Alsacien nous a reçus très très bien, un jeune instituteur qui était à fond dans la résistance et qui était armé, lui était bien armé, et il nous a reçus quelques-uns, dont moi, chez lui dans son petit village, à l'école de son village. Et dans la nuit, vers 4 heures du matin, on a entendu des bruits d'armes. On se demandait, puis des voix. Alors on se lève vite, on s'habille, on dit qu'est-ce qui se passe. Et le village encerclé par des Italiens, par une compagnie de bersaglieri italiennes qui nous ont fait prisonniers. Ils nous ont fait prisonniers et un peu rudoyés. Il y a toujours quelques soudards qui vous rudoient un peu, mais ce n'était pas méchant. Tandis que les officiers, ils comprenaient déjà que ça tournait mal pour l'Italie, et ils ont été beaucoup plus accueillants. Alors... Bon, on a été emmené à Saint-Jean-de-Maurienne. Bien entendu, tout ça à pied, bien entendu. Hein. J'ai une bonne trotte, mais tout ça à pied. Et là, on a été en prison. On a été interrogé, bon, etc. Il y avait pas mal de gens du pays qui étaient en prison aussi. Bon. Et puis... un beau jour, oui, l'instituteur devait être fusillé le lendemain matin. On nous a appris ça. C'était un peu... Puis le lendemain matin, lorsque, à un moment, on est venu nous chercher, on est passé devant le commandant de Bersaglière, qui nous a rendu nos papiers et dit « partez ». On était étonnés, on dit « bon, formidable ». Et on a appris que ce jour-là, 8 septembre 1943, vous savez ce qui s'est passé, l'Italie a demandé l'armistice aux Alliés et a changé de camp. L'Italie a changé de camp le 8 septembre 1943. Et nous avons été libérés, on nous a mis dehors, on a voulu regagner le camp, mais on a appris qu'il était dissous et qu'il fallait se débrouiller, même rentrer chez soi, ce que certains disaient, rentrer chez soi. Il n'en était pas question, bien entendu. C'est là où j'ai commencé ma vie de clandestin. Mais j'ai pas envie de raconter toute ma vie, quand même. Bon, c'était différent. La vie de clandestin, c'est-à-dire les faux papiers, vivre de façon ultra secrète et faire être à 100% dans la résistance, bien sûr. Voilà. Et ça a commencé comme ça. Avant que je reprenne les maquis l'année suivante. Voilà. Je vous donne cet aperçu du maquis. Quand j'ai repris le maquis, c'était dans l'Ain. Ça a été très bien organisé. C'était formidable. Hein. Vous avez entendu parler des maquis de l'Ain. Sous le commandement de Roman Petit, du colonel Roman Petit, qui était un homme extraordinaire. Bon, mais voilà. Est-ce que je réponds à vos questions de façon suffisante?
Oui.
Ça va?
Vos papiers, vous les aviez obtenus comment?
Oh là là! Dans l'Ain. Je suis revenu dans l'Ain après cette... J'avais des faux papiers de chantier de jeunesse, mais qui ne tenaient pas, ça ne tenait pas le coup. J'avais même pas de photo d'identité. Ça ne tenait pas la route. Et je suis allé dans l'Ain chez des amis qui m'ont fait obtenir... J'étais avec mon frère, là, qui m'ont fait obtenir des faux papiers. Et alors j'avais changé de nom, j'avais pris n'importe quel nom, j'avais pris un nom difficile, bon, Pougelon, je m'appelais Pougelon, P-O-U-G-E-L-O-N, Yves Pougelon, voilà. Et j'ai vécu clandestinement pendant 10 mois, à peu près, oui, jusqu'à la libération. Voilà. Alors, beaucoup dans le service de santé, après.
Et quand vous étiez clandestin, vous visiez où?
Ah ben, posez-vous, il faut vivre. Il faut vivre. Hein, et c'est ça, c'est très compliqué. Hein. Donc, trouver une couverture, on appelle une couverture, c'est-à-dire, d'autant plus qu'à cette époque, hein, on ne pouvait pas subsister dans la nature si on n'avait pas non seulement une carte d'identité, mais aussi des cartes de ravitaillement. Les cartes de ravitaillement, c'est essentiel, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas pain, viande, légumes, tout ça. Donc, il fallait quelque chose qui vous... qu'on soit reconnu. Et j'ai eu la chance de trouver un travail d'infirmier où j'étais beaucoup plus libre que ça. Je disais pas que j'étais étudiant en médecine, mais j'étais infirmier. Et là, avec ça, ça m'a permis de faire de la résistance en même temps, surtout dans le service de santé, comme je vous disais. Et d'être déclaré. Alors, j'avais mes papiers d'identité, j'avais mes cartes, puisque j'avais une profession. Du fait d'avoir une fausse profession, si vous voulez. C'est ça qui est important. Ce qui m'a permis de voyager. Pour la résistance, faire plusieurs voyages. Il fallait que je fasse attention. C'était devenu très dangereux, les voyages. Très, très dangereux. Voilà. Des questions?
C'était quoi la différence entre la passion italienne et la passion
allemande? Écoutez, c'était le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Non, les Italiens, bon, surtout à cette époque où on était... Arrêtez, je me souviens, quand on a été emmené de Mont-Pascal sergent de Maurienne, il y avait un lieutenant qui était là, qui a commencé à bavarder avec nous. Il nous a raconté qu'il, normalement, il était étudiant en droit et qu'il avait été mobilisé et qu'il était lieutenant dans les Versailles. Mais on avait l'impression déjà qu'il n'y croyait plus. Bon. Alors, je vous dis, à part quelques soudards qui nous ont brutalisés au départ, mais ça n'a pas été grand-chose. Les Allemands, au contraire, devant la défection des Italiens, ils sont devenus méchants. Nettement méchants. Et là, je vais vous dire, j'allais à pied, j'étais revenu à Chambéry, et à pied, je me dirigeais vers un endroit où j'espérais pouvoir avoir tout au moins un hébergement. Et là, pour y aller, on passait devant une caserne de chasseurs alpins autrefois, de chasseurs alpins français, qui avait été occupée par les Italiens, et puis les Italiens ont été chassés par les Allemands. Hein? Là, le 8 septembre, ils ont été nettement chassés. À part certains qui voulaient rester avec Mussolini. Alors, j'étais obligé de passer devant, là, devant cette caserne. Je passe devant cette caserne et j'entends courir derrière moi et en allemand, halt, halt. Alors, je m'arrête. Alors, je vois un sous-officier allemand, un Feldwebel, un adjudant, avec oui, je vois un Feldwebel qui avec accompagné de deux soldats allemands et la baïonnette au canon, il me flanque la baïonnette sur l'estomac et en me disant pas pire. Pourquoi? Parce que il faisait la chasse non pas aux Français mais aux Italiens. Et il se demandait si je n'étais pas un Italien en train de fuir. Voilà. Et alors, j'ai montré mon fameux ma fameuse fausse carte d'identité où il n'y avait même pas de photo. Ça leur suffit. Ah, bon, allez, raus. Bon. Mais pour vous dire, ils étaient à l'affût. Alors, le nombre de fois où, comme j'ai eu de vrais papiers, de vrais faux papiers, le nombre de fois où j'ai été arrêté par les Allemands et... Au revoir, madame. Très souvent, sans parler de la police française, bien entendu. Voilà.
Est-ce que vous avez connu des familles juives qui ont été déportées ou...
Bien sûr. J'ai eu des amis qui ont été déportés. Oui, bien sûr. Et d'autre part, vous parlez des Israélites, c'est une chose qui est... Je vous parle de Chambéry, j'étais à Chambéry à ce moment-là. Je prenais mes repas, il fallait que je me débrouille.
Vous attendez dans le couloir qui allait venir s'installer là?
Ah, mais bien sûr.
Excusez-moi. Bien sûr. Je vais me mettre dans un petit coin.
Oui, en ce qui concerne. J'étais dans. Je prenais un repas chez une marchande de soupe, ce qu'on appelle une marchande de soupe, c'est-à-dire une dame qui y avait la table commune où il y avait des professeurs de lycée de Chambéry, il y avait un ou deux fonctionnaires. Et moi, je m'étais intégré là. Bon, c'était pas trop cher. Et c'était pas du luxe. J'aime mieux vous dire que c'était pas du luxe. Mais on pouvait se sustenter quand même un peu. Et parmi eux, il y avait un juif. Il y avait un juif. Un jeune juif qui avait mon âge. Et visiblement, il était caché. Il se cachait. J'essayais d'entrer en contact avec lui très très mal, très très peu. Il était horriblement inquiet. Horriblement inquiet. Et la marchande de soupe le rudoyait parce que visiblement elle faisait une propagande vichiste énorme. Les repas, c'était, on écoutait Radio Paris, par exemple, ou bien Philippe Henriot, vous savez, Philippe Henriot qui était l'éditorialiste de la radio d'État. Et là, il fallait qu'on absorbe tout. Ça, c'était... Et elle était vraiment très, très ardue, elle faisait toujours des réflexions sur les résistants, etc. Et elle se doutait que j'en étais, certainement. Et ce pauvre juif, il recevait bien sûr des colibés de cette femme. Et vraiment, on avait l'impression qu'il était traqué. Et un beau jour, je retourne dans ma chambre, et vous avez à passer par une place. Je savais qu'il habitait sur cette place, au 5e, une foule. Ce gars était passé par la fenêtre. Il était passé par la fenêtre, et est-ce que ça s'était compliqué pour lui? Il avait essayé de se trancher la gorge, il n'était pas arrivé, et il avait sauté. Voilà, c'était des choses comme ça qu'on voyait vis-à-vis des Juifs. Les Juifs ont été vraiment malheureux. Ceux qui n'ont pas été déportés ont subi aussi, comme lui par exemple. Il sentait que, sans doute, que l'étau se resserrait sur lui. Il a préféré se suicider. Il avait mon âge. Je vous donne cet exemple-là, mais j'en ai connu plusieurs.
Est-ce que vous avez assisté à des arrestations?
Des arrestations? Des rafles, par exemple. Des rafles, oui, il y en avait, hein, fallait se méfier. À Lyon, notamment. À Lyon, je dois dire que fallait toujours être à l'affût, ça. Sûrement, sûrement. Sur ce qui existait autrefois, il y avait le cours de Verdun qui était. Et j'ai assisté, non, parce que je me suis enfui, à une rafle où tous les jeunes ont été arrêtés pour être. Alors certains étaient envoyés au STO, d'autres suspects, et on les envoyait à Avenue Berthelot, comme je vous l'ai dit. C'est vrai. Mais RAF, organisé par les Allemands, c'est-à-dire que la Gestapo, ou la, plutôt la police allemande, toute la police allemande organisait ça avec l'aide de la police française, et la Wehrmacht, c'est-à-dire l'armée allemande. Ils étaient nombreux. Heureusement, il y avait un tram qui passait, j'ai pu sauter sur le tram. En marche, c'était notre habitude de courir après le tram pour le prendre en marche.
Et de sauter en marche.
Et sauter en marche. C'était un sport. C'était un sport. Et c'est comme ça que... Bon, je ne m'aurais peut-être pas fait prendre, je ne sais rien. Enfin, il valait mieux s'éloigner. Bon, c'était... Ça existait, les rafles. Ça existait bien. Vous savez, je vous ai parlé un peu de la libération de Lyon, la conquête de la liberté, c'est formidable. C'est vraiment, hein, la liberté, c'est un bien merveilleux. Un bien merveilleux qui est, mais il faut bien se le dire, la liberté est fragile, elle est très fragile. Une dictature peut remplacer une démocratie. Et une vraie démocratie, je parle d'une vraie démocratie. Et il arrive malheureusement que ça arrive souvent qu'un régime, nous l'avons vu d'une façon épouvantable. Je me pense en ce moment, comme je suis devenu historien, je me pense sur l'année 1939. L'année 1939 est une année extraordinaire. Et je reprends les événements, les grands événements qui se sont passés juste avant-guerre. Hein. On sortait de 38 avec, vous en avez entendu parler, l'histoire de Munich, hein, la capitulation des puissances occidentales devant les dictatures allemandes et italiennes à Munich. On sortait de là, hein, et certains, vous savez que, vous en avez entendu parler, que le premier ministre français, qui était Daladier, quand il est revenu, il a été ovationné, alors que c'était la signature d'une guerre prochaine. Le premier ministre britannique, Chamberlain, a été ovationné à Londres parce que on disait il a sauvé la paix. Mais non, il n'a pas sauvé la paix. C'était une reculade, c'était tout. Or, là-dessus, on arrive à 39, ou 39, où beaucoup ont cru encore au miracle de Munich. Donc, si vous voulez, un peu l'insouciance des Britanniques et des Français. L'insouciance. Et là-dessus arrivent des catastrophes. D'abord, la fin de la guerre d'Espagne, bien sûr, vous le savez. Bon. Et puis, après, brusquement, eh bien, on s'appelle Mussolini en Italie, qui veut faire le grand comme son copain Hitler. Je ne dis pas de mal des Italiens, hein, je parle de Mussolini. Attention. Alors, il veut faire comme Hitler et il prend l'Albanie. Il débarque en Albanie, il occupe l'Albanie. Bon, un pays qui était indépendant, pof, il tombe dans le vide. Là-dessus, quelques mois plus tard, Hitler déchire le traité qui a été signé à Munich et prend toute la Tchécoslovaquie. Il occupe toute la Tchécoslovaquie. Bon, qui n'existe plus. La Hongrie est tentée de faire un peu comme lui, enfin, etc., et occupe une partie de l'ancienne Tchécoslovaquie. Hein. Et ça commence comme ça. Et puis ensuite, on s'aperçoit que la Pologne qui voulait se faire oublier, eh bien, brusquement, elle intéresse Hitler. Bon, Danzig, la fameuse histoire de Danzig que vous connaissez. Voilà, ça a été cela. Et jusque-là, les Occidentaux, eh bien, ils voyaient rien. Ils voyaient rien. Ils ont commencé à s'inquiéter quand même à partir de ce moment-là.
C'était temps. C'était temps.
Et c'était temps.
Tu sais que j'étais, François, tu sais que deux jours avant la déclaration de guerre, qui a été faite par la France et l'Angleterre.
Oui. Le 3 disait, septembre.
Ça faisait exulter Hitler, d'ailleurs.
Bien sûr.
C'était pas lui qui a déclaré la guerre. C'est la France et l'Angleterre. Et deux jours avant, j'étais en Allemagne. Deux jours avant cette déclaration, j'ai failli y rester. J'avais 17 ans. J'étais passé plus d'un mois, presque deux, dans un petit village comme Bourg-en-Bresse, dans le nord-ouest de l'Allemagne, du côté du Rhin. Et c'est là où ma mère m'a envoyé un télégramme, rentre d'urgence, grand-mère très malade. Alors j'ai compris qu'il fallait rentrer. J'ai dit bon. Et les braves gens avec qui j'étais, c'était les braves Allemands, ils disaient oh, Hitler a déjà empêché la guerre deux fois, hein, quand il y a eu l'Anschluss de l'Autriche, ensuite quand il y a eu l'histoire des Sudètes. Alors, il va bien pouvoir l'empêcher une troisième fois. Ben oui, on a quand même pensé que c'était trop. Alors, les Anglais et les Français ont déclaré la guerre à Hitler en français. Alors, Hitler n'avait plus rien à faire. Il avait qu'à continuer à augmenter son armement, alors que nous, on pensait aux vins chauds du soldat pendant l'hiver. Et c'est tout ce qu'on a fait.
Bien sûr.
De bosser et puis de s'armer un peu plus et de prévoir ce qui allait nous tomber dessus, ce qui était arrivé, qui est arrivé en 40.
Vous avez pensé au théâtre aux armées. On faisait le théâtre aux armées.
Le théâtre aux armées, il y avait voilà. Un chaud du soldat, il fallait ces pauvres malheureux Français qui étaient dans les avant-postes, évidemment, c'était pas drôle, mais enfin, il n'y avait plus à faire, si ça pouvait encore se faire, parce que Hitler, chez eux, ça travaillait dur. Moi, j'ai assisté aux premiers essais, je n'y comprenais rien. J'étais à côté d'un camp d'aviation, à côté de Terre-Pomère. Je voyais s'entraîner des Stukas.
Ouais.
Je me disais, qu'est-ce qu'ils fabriquent là, à plonger comme ça? Eh bien, c'était les Stukas.
C'était les Stukas. Les Stukas, c'était des petits avions allemands qui avaient quelques bombes seulement et qui, à un moment, faisaient un piqué. Lâchait la bombe, faisait une ressource et s'en allait. Et c'était épouvantable, d'autant plus que pour affoler les gens, il y avait une sirène. Il y avait une sirène qui était épouvantable. C'était épouvantable de voir cet avion avec cette sirène qui vous tombait dessus. Enfin, des questions encore. Je cause, mais vous.
Et est-ce que vous pensez que s'il y aurait eu un mouvement de masse de toute la population en France, ça, on aurait pu éviter l'occupation, toutes les déportations, ou vraiment la peur et tout?
Oui, alors vous savez, il y a eu un problème, et ça, Jacques est là pour nous le dire. Il y a eu un problème, c'est que pendant les années précédentes, il y avait deux possibilités. Il y avait la question, et beaucoup d'entre mes camarades, il y a eu cela, il y a eu un mouvement pacifiste en disant il s'agit d'établir la paix au lieu de s'armer, on établit la paix. Mais ce qu'il y avait de terrible, c'est que ceux qui depuis 1936, quand on allait, ceux qui étaient allés voir ce qui se passait de l'autre côté du Rhin revenait en disant, mais c'est épouvantable, l'armement allemand et le réarmement allemand est extraordinaire actuellement, et aussi bien dans les airs que sur mer que sur terre. Alors, certains pouvaient penser que en prônant la paix, peut-être que de l'autre côté du Rhin, eh bien, on aurait peut-être un écho. C'est ça.
Oui, on se trompait bien.
Et on se trompait complètement.
Parce qu'ils se trompaient très bien. Sans hésitation depuis des années.
Et là, moi j'étais, je suis allé en Allemagne en 36, au moment des Jeux Olympiques, mais je dois dire que là, j'ai été étonné de voir l'hostilité des jeunes de mon âge, à ce moment-là, vis-à-vis de nous, dès qu'ils voyaient qu'on était français. C'était une hostilité affichée. C'était affiché.
Moi, j'ai pas vu ça en 39.
Ah oui, ben moi, j'ai vu.
Non, ils m'ont accueilli dans une famille. Ben,
ah oui, tu étais accueilli.
J'ai été même faire du. J'ai fait de l'aviron sur la Roure même. Oui, avec eux. Ils avaient des équipes constituées de 8 et de 4 barrés. Comme je n'avais pas l'entraînement d'aviron, j'en ai fait pas à ce moment-ci. On m'a mis barreur, j'étais barreur, j'avais quatre filles devant moi qui ramenaient, qui étaient belles filles d'ailleurs.
Et toi, tu étais un beau garçon, c'était pour ça.
Comment ?
Et toi, tu étais un beau garçon.
Oh, peut-être. Je disais toujours, ich bin ein sehr südlicher Mann. J'étais arrivé en Allemagne par le Rhin, j'avais un oncle qui m'avait procuré l'installation sur une péniche de minerai de fer qui venait de Lorraine et qui arrivé à Duisbourg, depuis Strasbourg. Et pendant 3 jours, j'ai eu le soleil comme on a eu hier, par exemple. Pendant 3 jours sur le Rhin, j'ai traversé toute la trouée héroïque, la Lorelei, les châteaux de la trouée héroïque, les boucles du Rhin, avec sur une péniche, un voyage absolument magnifique que je vous conseille de faire si vous avez l'occasion. C'est absolument superbe.
Bien sûr.
Avec le club alpin de Bourg, là, on était reçu par le club alpin allemand à Bad Kösnach, c'est notre jumelle, vous le savez, et bien on a été reçu, mais comme des rois, l'amitié franco-allemande, ça il faut bien se le mettre dans la tête, ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous séduire, parce qu'il n'y a plus d'Hitler, c'est vraiment vrai, hein, ils font tout ce qu'ils peuvent. Mais parce qu'ils font peut-être un petit complexe vis-à-vis de ce qui s'est passé entre 39 et 45. Enfin, c'est comme ça. Mais si vous avez l'occasion de faire ce que j'ai fait à 17 ans, faites-le, c'est magnifique.
Sûrement. Je dois dire que moi j'ai gardé un mauvais souvenir de 36. Quoi qu'il en soit, je vous parlais de 39. Et indéniablement, on voyait que ça allait arriver, que la guerre était proche. Et c'est pas parce que c'est la France et l'Angleterre qui ont déclaré la guerre. Et pourquoi est-ce qu'ils ont déclaré la guerre ? Parce qu'il y avait des pactes. Il y avait un pacte entre la France et la Pologne, et entre l'Angleterre et la Pologne. Et le pacte anglo-polonais était récent, était très récent. Il datait de juillet. Et c'était un pacte de défense. Bon, jusque-là, on n'avait pas respecté nos pactes avec la Tchécoslovaquie. Il y avait le même pacte avec la Tchécoslovaquie. On ne l'a pas respecté. On l'a laissé bouffer. Et là, il faut que vous voyez la carte de l'Europe pour voir ce qu'était l'Allemagne nazie qui avait pris et la quantité de territoire qu'elle prenait. Et même, elle avait pris au printemps 39, elle avait pris Memel. Memel, c'est un port sur la mer Baltique et qui dépendait de la Lettonie. Et elle l'a pris, elle a donné un ultimatum, enfin l'Allemagne nazie a donné un ultimatum à la Lettonie en lui disant vous laissez à l'Allemagne, comme ça, ce port qui est à vous, ben vous le laissez. Pourquoi ? Parce qu'il existe quelques Allemands, il y a des Allemands qui y habitent. Donc, ça suffit. Ça devient allemand. Et la Lettonie n'a pas osé rien dire, elle a laissé faire. Et c'est ça, petit à petit, c'est comme ça que l'Allemagne s'est agrandie, l'Allemagne nazie s'est agrandie de façon extraordinaire. Et ça a continué après la guerre. Voilà. Je vais vous demander s'il y a d'autres questions.
Comment vous avez accueilli la formation des camps?
C'est après la guerre. Après la guerre, on a été extrêmement surpris. Ça se doit dire qu'on ne se doutait pas de la cruauté qui sévissait dans les camps de déportation. Et alors, en ce qui concerne l'extermination, d'une part, les camps d'Auschwitz, notamment Birkenau, où les Juifs étaient exterminés dès leur arrivée, on ne savait pas. On leur avait raconté, lorsqu'on les déportait, qu'ils étaient déportés pour aller s'installer ailleurs, dans l'Est. On leur disait dans l'Est de l'Europe. Mais en fait, ils aboutissaient à Auschwitz. Bon, nous ne savions pas ce qui était réservé à nos amis résistants qui étaient arrêtés. On ne l'a appris qu'après-guerre, quand ils sont revenus. L'horreur. Enfin, vous avez lu certainement des témoignages là-dessus. Ceux qui sont revenus de là-bas, de notre, vous savez, l'association Résistance Tisser la Langue, vous savez ce qui est arrivé à nos amis, mais qui ont 3 ans de plus que nous. Jacques et moi, nous étions dans ces années dont je vous ai parlé, 40-41, vous voyez. C'était la dernière année de lycée Lalande que nous avons eue. 40-41. Mais 3 ans plus tard, il y a eu l'histoire du lycée Lalande. Je pense que vous le connaissez tous, l'histoire du lycée Lalande, le jour du bac, le 5 juin 1944, vous le connaissez? Vous connaissez? Non? Le 5 juin 1944, oui, il y avait, il faut le dire, il y avait parmi les lycéens, à ce moment-là, la résistance avait pris une certaine ampleur. Et les résistants faisaient partie d'une association, les FUJ, les Forces Unies de la Jeunesse, au lycée. Et ils faisaient des coups de main. Et la milice française, qui était pire que la Gestapo, il faut bien le dire, était pire que la Gestapo, a organisé une rafle le jour du bac, c'est-à-dire le 5 juin 1944. Et ce jour-là, au lycée, dans les locaux du lycée, de l'autre côté, vous voyez, la cour d'honneur, c'est de l'autre côté, il y avait des élèves qui étaient en train de plancher. La milice arrive et a arrêté tous les élèves et les a emmenés dans les caves de l'Hôtel de l'Europe. Je ne sais pas si vous voyez l'Hôtel de l'Europe, ce qu'était l'Hôtel de l'Europe, Cour de Verdun.
C'est
non.
La salle des ventes maintenant. C'est la salle des ventes.
C'est la salle des ventes. Bon, il y avait un hôtel là. Et dans la milice, elle avait transformé les caves en lieu d'interrogatoire et en cachette. Et là, ils ont été brutalisés. et le président de la société, de l'association Résistance d'Issy-les-Landes a été brutalisé et a reçu un coup de nerf de bœuf. C'était la façon de flageller. Il a reçu un coup de nerf de bœuf sur le cou et a eu, avec une lésion du larynx, qui lui a interdit de parler correctement depuis. Et Pierre Figuet, c'est Pierre Figuet, donc qui est plus jeune que nous, si vous voulez, de 3 ans, a été donc blessé de cette là, déporté avec la plus grande partie des élèves. La plus grande partie des élèves ont été déportés. Certains ne sont pas revenus. Ceux qui sont revenus ont formé l'association Résistance Issy-les-Landes, et c'est pour cela que votre lycée est le seul lycée français à avoir reçu la médaille de la résistance. Le lycée civil. Certes, il y a un autre lycée, mais un lycée militaire, celui d'Autun, qui a reçu aussi la médaille militaire. Mais vous le savez, à l'entrée du lycée, vous l'avez peut-être remarqué, qu'il y a cette décoration qui est exceptionnelle, qui a été exceptionnelle pour un lycée, puisque c'est le seul lycée français qui en a été bon. Alors, beaucoup n'ont pas résisté à cette déportation. Ils en ont souffert énormément. Voilà, je croyais que vous le saviez. C'était les principales victimes de ce jour-là.
Et comment ils s'organisaient dans le lycée pour résister ?
C'est bien sûr, ils s'entendaient entre eux. Ils s'entendraient entre eux, ils faisaient un groupe et ils faisaient des actions en dehors du lycée. En dehors du lycée. Bien sûr, ça c'était facile. Voilà en gros ce que je dis.
Il y avait un prof de gym dont il faut signaler à l'époque, qui s'appelait Marcel Cochet.
Voilà.
Qui était résistant, qui a été déporté, et puis qui avait, en venant d'un entraînement à l'Alouette des Gaules, vous savez où est-ce qu'on va à l'Alouette des Gaules, le stade d'athlétisme avenue Maginot, qui est sur la gauche quand vous descendez l'avenue Maginot, vous voyez où elle est, le stade d'athlétisme, vous voyez sur la gauche là, le stade. Non, personne ne connaît, c'est curieux. C'était le stade d'athlétisme où le Prégo s'entraînait et où on allait à l'époque faire de l'athlétisme, de la course à pied, des grands espoirs, des tout ça, alors qu'on avait déjà un grand petit gymnase.
Ah oui, il était très bien.
Qui était pas mal. Qui a été démoli pour faire la partie restaurant.
Voilà.
Et la salle de sport qui est dessous, qui a été. En fait, mais déjà elle existait. Et puis il y avait à la place d'ici, il y avait ce qu'on appelait à l'époque la pelouse. Il n'y avait pas un brin d'herbe parce qu'on y jouait au rugby.
Oui, il y avait un très beau terrain de foot ou de rugby. C'était remarquable.
Le foot est venu après les premiers. Il faut lire que les premiers matchs de rugby après la guerre de 14 ont commencé au lycée de Lande. Et c'est les jeunes du lycée Lalande qui ont créé l'USB après la guerre de 14, et ce qui est venu de le club de rugby de la ville, qui est toujours l'USB, il a été créé par des lycéens d'Alande. Il faut savoir ça.
Un grand lycée, hein. Un grand lycée. Non, mais il est vrai que c'est un lycée exceptionnel. Moi, je suis très fier d'être un ancien de ce lycée-là, comme nous tous, peut-être.
Et aussi. Oui, C'est pour ça qu'on y revient.
C'est peut-être un peu stupide, mais...
Sûrement pas.
Est-ce que vous gardez un souvenir, est-ce que, encore maintenant, vous avez de la rancœur envers les Allemands, même si...
Ah, c'est une bonne question, ça. C'est pas du tout stupide. C'est pas du tout... Il est vrai que je dois vous dire. Il y a une période où je crois avoir haï les Allemands. Ça, c'est je crois. J'ai mis tout dans le même panier. Et pendant la guerre, c'était classique, quoi. Quand on apprenait qu'il y avait un Allemand qui était descendu, on disait, encore un boss de moins. Ça, c'était classique. C'était absolument classique. Et bien sûr, très vite, cette haine s'est effacée. La haine, finalement, je lisais tout à l'heure, je suis allé avant de venir ici, en arrivant de Lyon, je suis allé prendre un café dans un bistrot là-bas, où il y avait sur une ardoise, on mettait, il y avait cette phrase, la haine et la colère des faibles. J'avais voulu mettre quand même une note en moins. Quand on ne peut pas avoir de colère, on ne peut avoir que de la haine. Autrement dit, nous, il n'était pas possible. Et ça, c'était Baudet, Alphonse Baudet qui a dit cette phrase. Je trouve que c'est très intéressant ce qu'il a dit. Et il y a de quoi discuter. Moi, je pense que nous, quand nous étions occupés, on ne pouvait pas manifester de la colère devant eux. C'était pas possible. On ne pouvait qu'au fond de notre cœur les haïr. C'était possible. Donc il y a cette exception. Là-dessus, cette phrase est juste, bien sûr. Et nous avons connu la haine, mais elle s'est effacée, elle s'est un petit peu dissolue à partir de la victoire. Et c'est normal. Moi, j'ai le souvenir d'avoir fait à Lyon un prisonnier allemand, ce pauvre gars. Il n'y était pour rien, il avait une frousse terrible. Il se demandait si j'allais pas la battre, alors que j'avais pas d'armes. Mais là, il était redevenu un Allemand. C'était plus un boss. Quand on les a appelés les boss, c'est parce qu'on ne les a pas aimés, on ne les aimait pas. On ne les aimait pas. Il y avait... Mais très vite, je veux dire, petit à petit, ça s'est dissolu. Et on les a vus souffrir. Ils ont souffert beaucoup, bien sûr. Peut-être certains le méritaient, il n'y a pas de doute. Mais enfin, les nazis, c'est autre chose. Mais le peuple allemand, même, je dirais, la Wehrmacht, c'est-à-dire l'armée allemande qui n'était pas forcément nazie. Beaucoup en étaient, bien sûr, mais c'était des Allemands. Ils avaient été appelés, ils s'étaient réjouis devant les victoires allemandes, ils s'en étaient réjouis, ils s'étaient montrés peut-être quelquefois des... vraiment des soldats, comme je vous disais tout à l'heure, mais c'était des pauvres gens du moment où la guerre était finie. À part les nazis, parce qu'ils y croient. Ils y croient toujours. Ils y croient encore.
De moins en moins.
Ceux qui restent. Je parle de ceux qui restent. Et peut-être des néo-nazis, ça existe, les néo-nazis. De toute façon, il y a quelque chose qu'il faut se dire. La dictature est une mauvaise chose, telle qu'elle soit, que ça soit nazi, que ça soit autre chose, que ça soit même dictature du prolétariat ou autre chose, c'est une mauvaise chose. Tant que la liberté est dissoute, on arrive vraiment à la dictature. Il faut lutter, d'accord. Je crois que la liberté est vraiment le point de mire qu'il faut respecter, qu'il faut être jaloux de notre liberté. Pas n'importe quelle liberté, bien sûr. Hein, je savais qu'il y a un dicton qui disait, je ne dis pas de qui d'ailleurs, aime et fais ce qu'il te plaît. Mais aime, c'est-à-dire, ça va très loin. Aimer son prochain, ne rien faire pour nuire, ne pas nuire. Si, à ce moment-là, on peut être libre à condition qu'on ne nuise pas. C'est ça la seule chose. Volonté. Je crois que je m'arrêterai là.
Nous vous remercions pour votre intervention.
Vous êtes gentil de m'avoir écouté aussi longuement. Ça ne m'étonne pas de lycéen de la langue.